Hey, bienvenue dans Au cœur de la mode saison 2. Je suis Loïc Prigent.
Je suis Julien Dacosta.
Et on est dans la DS. On a récupéré notre DS. C'est une DS9, gris perle, cuir nappa, surpiqûre horlogère, j'ai l'impression. Enfin, c'est un truc de fou. On a une espèce d'accoudoir. Et nouveauté de cette saison, on a des massages, des fauteuils massants même à l'arrière. Parce que, en fait, le massage qui nous plaît tant, il était qu'à l'avant. Et là, maintenant, il est à l'arrière aussi. Donc, à nous, les massages pied de chat, là, comment il s'appelle ça? Pied
de chat? Pattes de chat, ouais.
Pattes de chat.
Débriefé, bien détendu.
Voilà. Ça va. Bah, débrief du défilé Dior en massage pattes de chat à l'arrière de la DS. Je pense qu'on est bon. Saison 2, c'est parti. C'est monté par Naji Moubarek. Bravo, Naji. C'est enregistré par Clément Duché. Merci, Clément Duché. Et on y va, on est parti. On est au cœur de la mode. C'est-à-dire que c'est les défilés parisiens. C'est la saison 2. On va courir de tous les défilés parisiens pour filmer pour TMC, pour 5 minutes de mode sur TMC, qui commence la semaine prochaine. Mais déjà, nous, on est en train de filmer les essayages, les défilés, les coulisses, on filme tout. Et on vous débriefe surtout tout en avant-première, dans la voiture, pendant les défilés, à chaud, sans aucun recul. On vous promet, il y aura zéro recul, toutes les embrouilles au premier degré. N'est-ce pas, Julien?
Tout, absolument tout, ouais.
C'est parti.
Qu'est-ce qu'on débriefe? On commence par quoi? Par Milan?
On commence par Milan. On va vous commencer par Milan. Donc là, on est dans la voiture. On va vers ce qui va être le premier défilé parisien. Pour nous, en tout cas, c'est celui de Victor Vincenzo, qui est dans le 10e. On sort des essayages Dior. On a le temps, du coup, de vous débriefer Milan, parce que nous avons fait un Milan assez studieux cette saison. Nous avons fait Fendi, forcément. Mais on a aussi vécu l'événement mondial, global, attendu par l'Italie. S'est arrêté pendant le live, c'est-à-dire le défilé Gucci. On a été chez Ferragamo, on a été chez Prada.
Et on a été chez Boss.
On a fait des sacrés défilés. Le défilé le plus attendu, forcément, c'était Gucci, avec un drama d'ampleur Gucci assez colossal, qui est que le défilé avait lieu à 15h le vendredi. Et qu'est-ce qui était prévu à 15h le vendredi? 5 cm de pluie. 5 cm allaient tomber, selon la météo italienne, à l'heure pile du défilé. Or, Gucci avait carrément refait, je sais pas comment tu dis ça, ouais, refait, réaménagé trois rues dans le quartier de la Brera. Donc la Brera, c'est le Louvre, de très beau musée de Milan. Et ils avaient vraiment refait les pavements des routes, ils avaient refleuri toutes les fenêtres, tous les balcons, des espèces de lierres délirants. Et je crois que toutes les boutiques avaient signé des deals avec Gucci, et toutes les boutiques devenaient plus ou moins des boutiques Gucci. Des galeries, des choses comme ça. Il y avait un espèce de programme vraiment urbain de Gucci-fication, un peu délirant, enfin franchement délirant. Et patatras, qu'est-ce qui s'est passé?
La production a dû changer le lieu du défilé, puisque donc la pluie était bien prévue et confirmée. Et donc, changement de lieu du défilé. Et
la veille à 17h.
Voilà, la veille à 17h, décision, on change le lieu du défilé. Et on défile dans les locaux Gucci à Milan.
Donc c'est les équipes de Bureau Bétac, qui est la boîte de prod française qui fait vraiment les gros défilés, elles sont pas nombreuses, et qui s'est tapé de tout refaire la mise en scène du défilé en quelques heures, dans quelque chose qui est devenu un hangar noir de forme carrée, très très haut de plafond, sol c'était du ciment, voilà.
Ouais, une mise en scène très minimale, c'est-à-dire que vraiment la salle était plongée dans le noir, et seulement un faisceau lumineux pour donc le parcours des filles. Et donc là, c'est vraiment le genre de mise en scène qui ne laisse place à aucune erreur, c'est-à-dire que là, on voit vraiment le vêtement, on voit tout, on n'est pas du tout distrait par une mise en scène complètement folle ou par un décor. Non, là, on est vraiment, on voit que le vêtement et on a vu que le vêtement. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que quand on découvre un nouveau designer dans une maison, c'est pas plus mal de vraiment se concentrer sur la proposition qui va être faite ce jour-là, et c'est ce qui s'est passé.
Parce que quel était l'enjeu de ce défilé? Pourquoi on vous parle de ce défilé comme ça? Mais enfin, si vous en êtes encore là au cœur de la mode saison 2, c'est que vous savez que Alessandro Michele, le designer de Gucci depuis 2015, est parti, et il est remplacé par un illustre inconnu, Sabato De Sarno, qui était directeur du studio, en gros, de chez Valentino, qui a travaillé avant chez Prada quelques années. Il était surtout chez Valentino. Il arrive chez Gucci pour faire tabula rasa. C'est vraiment l'idée. C'est-à-dire que la marque est à 10 milliards de chiffre d'affaires annuel et vise manifestement la barre des 15 milliards, voire des 20 milliards.
Ouais, ouais, grosse, grosse pression, c'est le défilé le plus attendu de la saison. Donc,
Nouveau PDG, Marco Bizzarri exit, arrive Jean-François Palu, qui est vraiment un ponte de chez Kering, le groupe de luxe qui est propriétaire de Gucci, et qui a vraiment, qui remet des enjeux vraiment énormes sur la maison, une nouvelle phase de croissance complètement dont on espère beaucoup. C'est les 10 ans qui arrivent en plus pile au moment de l'anniversaire des 10 ans du groupe Kering, des 50 ou 60 ans du groupe de François Pinault. Donc il y a plein d'enjeux symboliques et pas que symboliques, il y a des enjeux d'argent très très forts sur ce défilé. Donc on a pu voir très très fort la collection qui semble avoir un écho commercial hyper positif. Et des critiques qui, elles, sont forcément... La critique n'aime pas beaucoup, en tout cas, la nouveauté. Donc, un créateur de 40 ans qu'on connaît pas trop, les critiques ont adoré mettre plein de bémols dans tous les sens. Mais je pense que le vrai verdict, il va arriver des clientes. Est-ce que les clientes s'y retrouvent ou pas ? Il y avait de l'ADN Gucci dans tous les sens, hein. C'est-à-dire que ça citait aussi bien le Gucci de Guccio Gucci, c'est-à-dire le Gucci de 1925, que le Gucci de Tom Ford des années 90 et début 2000, le Gucci de Frida Giannini qui était entre Tom Ford, la créatrice entre Tom Ford et Alessandro Michele, et je crois aussi quelques références à Alessandro Michele. Enfin, il y avait vraiment des références à tous les Gucci qui ont bien marché, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Ouais, ouais, des sacs sur quasiment tous les modèles, tous les mannequins, donc vraiment une proposition de sac assez importante. On a vu, c'est le Jackie Kennedy, c'est ça ?
Ouais, c'est le Jackie, je crois. Il l'appelle le Jackie tout court. Je crois que tu peux pas appeler avec carrément le nom de famille. Je crois que tu donnes
le Kennedy, ouais.
Le Jackie, non, tu peux pas. Le Jackie, qui est un sac emblématique de la maison qui date des années 60.
Décliné dans toutes les couleurs, avec tous les imprimés.
Voilà, des sacs bambou, mais micro, en format très petit. Le mocassin Gucci, mais qui se retrouve avec une énorme semelle très, très, très haute. Enfin, voilà, un vernis Gucci. Enfin, il y a moi, j'ai beaucoup aimé la frange perlée. Je me demande combien de temps pour faire ces silhouettes où il y a des milliards de franges perlées. C'est assez impressionnant. Très impressionnant. Donc, c'était vraiment le défilé Emmaüs. Et qui dit défilé Emmaüs dit premier Emmaüs. Donc, on a quand même vu qui est apparu tout d'un coup.
Julia Roberts.
Julia Roberts, incroyable. Moi, mon apparition perso, c'était Paul Mescal. C'est la première fois que je le voyais en vrai. Et Paul Mescal, quand même, le gars, il se pose là. Mais c'est vrai que Julia Roberts, c'est toujours impressionnant de la voir.
Très impressionnante, avec énormément de sécurité autour d'elle, inapprochable. Hein. J'ai tenté de l'approcher, mais c'était quasiment... Non, c'était très dangereux pour moi.
J'ai obtenu quelques syllabes.
Mais sinon, ouais, non, très, très beau premier rang.
Des syllabes avec le mec de la sécurité, ouais, qui était très nerveux. Je pense que la sécurité de Joe Biden est plus calme que la sécurité de Julia Roberts. C'était une ambiance comme ça, c'était assez drôle. Tout le monde, l'excitomètre à 100 000, tout le monde quasiment en angoisse d'excitation, quoi.
Ah ouais, on pouvait... défilé là. Exactement ça, on sentait vraiment dans la pièce que les gens attendaient le moment et on avait qu'une hâte, c'était de découvrir le premier passage puisque ça allait annoncer le nouveau Gucci, la nouvelle ère Gucci.
Qui a été un manteau, premier passage, paf, un manteau gris, paf, prenez ça dans vos gueules. Et voilà, donc c'était assez étonnant. Daria Werbori, la mannequin Daria Werbori qu'on n'a pas vue depuis à peu près 2013, je pense, sur un podium ou dans une campagne et qui ressurgit chez Gucci.
Invitée au premier rang.
Muse ultime... du début des années 2010 et des années Old Céline avec Phoebe Philo. Donc vraiment, c'était du grand, 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 grand défilé très, très attendu.
Ouais, et on pouvait spotter au premier rang sur quelques célébrités le sac en avant-première, en fait. Il y a quelques célébrités qui avaient le petit sac, le petit sac bambou. Oui, c'est la mannequin Liu Wen qui était au premier rang et qui me l'a présenté. Donc du coup, j'ai su avant le défilé que c'était le sac phare qu'ils allaient présenter. Non, mais c'est une nouvelle stratégie pour montrer des nouveaux produits. C'est aussi de les donner aux gens au premier rang. Donc, toujours bien regarder comment les gens au premier rang sont habillés.
Il y avait une arrivée chez Gucci, il y avait un départ chez Prada.
Fabio Zambernardi.
Qui est parti. Donc c'était l'assistant de Miuccia Prada depuis à peu près 1790, je pense. Vraiment le grand collaborateur de Miuccia Prada et qui, pour donc signaler son départ, il a carrément le droit à saluer le sacro-saint salut de Miuccia Prada. Il a le droit à le partager. Donc il y avait Miuccia Prada qui salue avec Raf Simons et tout d'un coup, Fabio, l'assistant mythique, qui salue aussi, qui dit au revoir, Mucha le salue et tout ça. Et la foule crie comme si c'était Freddie Mercury quand même.
Ouais, ouais, vraiment, la foule hyper chaleureuse. Alors que pour le coup, la foule chez Prada, moi c'était mon tout premier Prada.
Elle est pas chaleureuse.
C'est pas la foule. Non, mais c'est-à-dire que tous les défilés sont pris au sérieux. Mais alors chez Prada, c'est encore plus au sérieux. C'est une foule qui est très très sérieuse chez Prada.
C'est pas de la mode, c'est Prada. C'est une espèce de moment comme ça, c'est l'ONU de la mode, je sais pas, c'est, les gens viennent se faire adouber de par la tendance qui va régner, quoi. C'est vraiment...
Ah ouais, ouais, les gens sont focus, on sent dans la salle, ouais. Tout le monde est focus et tout le monde regarde chaque détail, chaque millimètre qui vont
plus proche de
toute la longueur de la saison, quoi. Avec un décor hyper surprenant, le plafond était en grillage avec du slime qui se met à couler, donc une matière comme ça très transparente, très étrange,
gluante,
ouais. Donc on bascule tout d'un coup dans un film très bizarre,
anxiogène,
exactement anxiogène, un film d'alien.
Ça crée un filtre entre nous et les mannequins en plus, donc on les regarde à travers un filtre, sachant que souvent on les regarde à travers le filtre de notre téléphone ou notre appareil photo, notre caméra. Donc là en plus on rajoute Prada rajoute un filtre, et avec en musique à fond les ballons Vertigo. C'est quand même une collection assez flippante. La nouvelle tendance énorme, c'est le dernier passage qui n'est pas un dernier passage. Je ne sais pas si tu as remarqué.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le dernier passage est assez banal, en fait. C'est plus du tout un passage qui ponctue la collection ou qui envoie un message fort. Ça peut être un tailleur noir tout simple qui défile. Et c'est vrai que là, ça fait d'autres défilés qu'on voit ça et qu'on observe ça.
C'est plus le bouquet final.
Non,
c'est une virgule. Tu termines par une virgule. Tu termines plus par un point final ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Tu termines par une virgule ou trois petits points, j'allais dire des points de suspension, peut-être. Mais pas quelque chose d'hyper spectaculaire qui te met en crise d'asthme de beauté. On a fait Ferragamo, baptême de Ferragamo pour nous deux.
Ouais, tout premier Ferragamo, assez nouvelle tête. On connaissait pas Maximilien Davis, le designer à la tête de chez Ferragamo depuis combien? Deux saisons? Trois saisons?
Qui a même pas 30 ans, je crois qu'il a 28 ans. Et qui arrive dans cette maison hyper statutaire, hyper conservatrice, ou académique, quoi, et qui transforme vachement l'essai, parce que de cet académisme et de ce classicisme, il crée quelque chose de sensuel, de calme, loin de toutes ces collections qui tapagent et qui crient et qui font de la pyrotechnie. Et c'est très beau à regarder. Tu sens qu'il ne se fout pas de la gueule de la cliente, que c'est du matos, quoi. Les matières ont l'air très, très, très travaillées. On a fait Boss, record de retard, 1h30 de retard, le défilé Boss. Ce qui est un peu chaud quand le défilé était prévu à 9h du soir, le samedi soir.
Mais ça, c'est un autre grand truc de Milan, c'est qu'effectivement, les défilés commencent vraiment en retard.
Ah, c'est les années 90, les gars, là-bas. Ah ouais, c'est donc plein de gens ratent les défilés à Milan, tellement il y a des bouchons, tellement c'est compliqué d'aller d'un défilé à l'autre. Et donc soit ils vous attendent et du coup le défilé est très en retard, soit ils vous attendent pas et vous ratez carrément le défilé, quoi. C'est vraiment assez complexe.
Mais du coup c'est assez rigolo parce que backstage on voit des scènes qu'on voyait plus vraiment, c'est-à-dire on voit des top modèles arriver vraiment dernière minute qui ont même pas eu le temps de faire les répétitions et donc qu'ils ne connaissent même pas le podium. Et là pour le coup chez Boss, le podium était très grand et assez complexe.
On appelle ça complicated runway.
Voilà, et donc les mannequins...
Il fallait le bac pour comprendre le runway.
Ah ouais, et
elles
donc là,
dans tous les sens.
C'est là où on voit que c'est les top modèles, elles gèrent quand même.
C'est une danse de l'amour d'abeille.
Ouais, c'est ça, parce que par exemple, Gigi Hadid qui débarque et qui n'a pas pu faire la répétition et qui ouvre le défilé quand même. Là,
show.
On se dit, c'est quand même une prouesse de pouvoir défiler comme ça, sans sourciller, sans bugger une demi-seconde, et elle l'a fait, elle l'a très bien fait. Il y avait Amélia Gray aussi. Amélia Gray, qui, pareil, est arrivée complètement paniquée. Elle ne savait pas du tout. On lui a expliqué 4 fois sur le line-up. Et rien que ça marche. Elle va sur le podium et c'est bon, c'est lancé.
C'est et ce n'est pas les filles qui arrivent en retard pour arriver en retard parce qu'elles sont des divas. C'est des filles, des mannequins qui faisaient juste avant le défilé Versace. Et donc, qui arrivent avec encore les cheveux, le maquillage du défilé Versace sur le défilé Boss. Et on se met à leur expliquer le nouveau runway hyper compliqué tout en leur refaisant complètement le look, quoi. C'est-à-dire les cheveux, les maquillages et tout ça.
Non, vraiment, elle mérite des médailles. Ouais. C'est vrai que moi, je pourrais pas
médaille
du tout
mentale.
Faire ça.
Médaille mentale. Non, mais défilé Boss, très sympathique, avec un délire sur... alors, la meilleure inspi de la saison, je trouve, c'est le designer de Boss qui rentre de son défilé de Miami, regarde Bing John Malkovich dans la peau de John Malkovich dans l'avion. Parce qu'il y a une idée bizarre déjà, où les gens sont dans des bureaux où le plafond est tellement bas qu'ils sont pliés en deux, ils sont mal à l'aise, et donc ils se posent la question, que se serait-il passé s'ils avaient été mieux habillés, donc habillés en boss, et qu'ils avaient été hyper à l'aise. Voilà, c'est le départ de la collection qui est assez un bon départ. Du coup, la collection de bureaux, avec, comme le film se passe en 99, il leur a collé des pagers. Et donc apparemment, ils ont cherché des pagers partout dans Milan, ils n'ont pas réussi à en trouver, donc ils ont fait travaillé des imprimantes 3D pour imprimer des pagers. Donc c'était assez drôle. L'autre inspi que j'ai trouvé vraiment génial, c'était chez Fendi, où Kim Jones reproduit pas à l'identique, mais quand même, il s'inspire très fort d'une collection Fendi de 1999, où il reprend parfois quasiment à l'identique une forme, ou à l'identique une couleur, ou l'idée d'une matière et tout ça. Enfin, c'était assez étonnant de reprendre à ce point-là l'archive, et pas se dire « Ah, mais je vais le remoderniser, ou je vais le passer par mon prisme à moi », mais au contraire, de se glisser dedans et de le respecter de façon assez littérale, et c'était, je trouvais ça hyper intéressant.
D'ailleurs, chez Fendi, c'était la première apparition au premier rang de Linda Evangelista, donc en pleine tournée mondiale pour la promotion du documentaire Supermodels sur Apple TV.
Tu l'as regardé ?
Et ouais, je l'ai regardé. Tout le monde m'a envoyé. Il y a un moment où je suis en fait derrière Linda Evangelista. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé sur Instagram et j'adore l'idée de voler la vedette à Linda Evangelista. Je trouve ça génial que les gens pensent à moi à ce moment-là, qu'ils arrivent à me voir alors qu'on me voit vraiment une demi-seconde tout derrière. J'adore l'idée. Je trouve ça très marrant.
Donc Linda Evangelista qui réapparaît assise au premier rang avec Kate Moss et Naomi Campbell.
Donc ouais, c'est le lancement de la super promotion, la super tournée des supermodels cette saison.
Pour leur série.
Voilà.
Autre inspi hyper intéressante, GCDS, où c'est Naples l'inspi. Et on apprend que Giuliano Calza, le directeur artistique de GCDS, est d'origine napolitaine, qu'il était pauvre. Alors que moi, j'ai toujours pensé que c'était un gosse de riche.
Ouais, c'est drôle parce qu'on lui a dit.
Il a une vibe gosse de riche de fou. Et non, c'est pas du tout un gosse de riche. C'est pas un nepo baby. Il était vraiment d'un milieu social pas du tout favorisé. Et il vivait à Naples. Il se sentait un petit peu oppressé d'être gay à Naples parce que c'est pas forcément la ville la plus ouverte là-dessus, apparemment. Et donc, c'est sa revisite d'un Naples, mais que du coup, il a des cagoles de Naples. Alors, je sais pas comment il les appelait. Il nous a appris le mot cagole en napolitain, j'ai oublié. Et donc, c'est vraiment un hommage aux cagoles. C'est l'équivalent italien qu'il emploie, et il leur rend hommage parce que c'est le fameux truc que disait Christian Lacroix. Christian Lacroix disait les cagoles, elles au moins, elles font un effort. Et pour ça, il les respectait beaucoup et tout ça. Je paraphrase peut-être mal ce qu'il disait, mais c'est ça qu'il disait. Et non, c'était sur la. Tu pouvais aller sur la gauche. Je suis pas sûr que tu as le droit d'aller par là. Ah, il t'a dit par là. Ah, on a le droit d'aller passer par là. Ah ouais, ok. Nous sommes en train d'arriver au défilé Vincenzo. On vous reparle après le défilé. La déesse va se garer. On va sortir de la déesse et on va aller filmer le premier défilé de la Fashion Week parisienne pour nous en tout cas, parce qu'il y en a déjà eu, mais nous on était dans les essayages. Et oui, il y avait Kiona, on sort de Vincenzo. Et il y avait Kiona, magnifique, sublime, la gagnante de Drag Race France, accompagnée de Piche, qui était en civil, magnifique. Camus était là, pas du tout en civil. Alors j'ai eu l'info, Camus, c'était soi-disant 1h30 de prépa. C'était tout le maquillage, tout ça. Camus, qui était une des candidates sublimissimes de la saison 1 de Drag Race France, et qui était là, très maquillée. Elle avait carrément coordonné coiffure et maquillage à la tenue Vincenzo qu'elle portait. Pas mal, pas mal. Il y a pas mal de gens qui auraient hurlé si on avait été dans une plus grande salle, je pense. La révélation quand même de ce défilé Vincenzo, c'était la présence de, sur le podium,
Nikki Doll.
Bah oui, quand même, incroyable.
Je savais pas si tu voulais dire Nikki Doll ou Miss Lady Boo, c'est pour ça que j'ai des mains, c'est qui
Miss Lady Boo qui aussi apparaît sur le podium, donc qui est une des grandes figures de Drag Race France, mais de l'obscurité.
De l'ombre, oui, effectivement, parce que c'est elle qui réalise beaucoup, beaucoup de corsets qu'on voit porter dans cette émission de télé, donc dans cette compétition de drag queen. Et elle a ouvert le défilé Vincenzo. Donc, et elle ouvre avec un corset qui est vraiment pas facile, une espèce de prise de tête démente backstage. J'ai pu filmer quelque chose vraiment de génialissime. C'est une séquence hallucinante. C'est vraiment le casse-tête une idée de l'enfer de tous les créateurs de voir une robe comme ça qui marche vraiment pas sur le line-up, c'est-à-dire qu'on doit vraiment tout refaire. Les, on voyait, ils étaient, je sais pas, à 5 dessus à essayer de mettre le chapeau parce que donc elle a un chapeau d'aimant qui en fait est coordonné et attaché au corset qu'elle porte. Et le chapeau est un peu en mouvement comme ça avec des perles, c'est un truc pas possible. Ils ont fait des nuits blanches pour réaliser cette pièce et ça marche pas. C'est-à-dire qu'au moment où elle doit l'enfiler, il y a plein de trucs qui déconnent et donc là, faut être un génie et faut trouver les bonnes idées pour tout rafistoler. Et ils ont réussi à le faire et c'est, on les voyait vraiment transpirer avec des épingles, avec des systèmes complètement fous. Et là, c'est génial parce qu'on arrive à la voir partir sur le line-up, on arrive à voir marcher sur le podium et ça c'est la magie de la mode. C'est vraiment tout ce que j'aime filmer. C'est ces moments-là, ces moments de prise de tête. Et c'est toujours assez génial chez Van Santo parce qu'il y a toujours un moment comme ça, il y a toujours un moment qui déconne. Et heureusement que ça déconne parce que ça nous fait vivre des moments assez fous. Et c'est surtout dans ces moments-là qu'on voit le génie de toute l'équipe. Le génie de la dame qui a réalisé le chapeau. Claudie, qui a travaillé longtemps chez Jean-Paul Gaultier et qui a suivi Victor Van Santo dans son aventure personnelle. Et donc, elle fait ce chapeau complètement fou qu'on avait déjà vu en fitting ensemble. Et là, le voir terminé, c'était...
On l'avait vu il y a 15 jours et tu sentais que ça allait être compliqué. Et c'est vrai que là, j'ai revu les gens qu'on avait vus au studio il y a 15 jours et je les ai revus. Ils avaient tous pris 2 ans dans la gueule.
Ah ouais, ils n'ont pas beaucoup dormi. Ils nous l'ont tous dit backstage. Victor, le premier, nous l'a dit backstage. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai fait beaucoup de nuits blanches. On sent que cette collection, elle a été un peu plus compliquée, qu'il a essayé d'aller un peu plus loin. Et effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de corsets. Donc c'est vraiment, les corsets, c'est pas le plus simple du tout à réaliser. Et là, il y avait beaucoup de corsets. Il y avait des jeux avec des transparences, il y avait des jeux avec des chapeaux complètement fous, des trucs qui se passe sur la tête avec des perles en plus. Donc les perles, ça peut péter, ça peut sauter. C'est ce qui s'est passé. Claudie nous racontait rien que d'essayer de sortir le grand chapeau de l'atelier. Donc il se trouve dans l'appartement personnel de Victor Van Santo.
Ça passe pas les portes.
Bah en fait ça passe pas du tout les portes. Et donc ça s'est accroché forcément. Toutes les perles ont pété. Et Victor trouve ça drôle. En fait à chaque fois il réagit pareil. Il dit oh c'est pas grave, ça fera un happening si les perles sautent, la mannequin tombera. Enfin ça fait toujours rire en fait.
C'est vrai qu'elle portait un mélange entre un cerf-volant et une méduse, mais une grande méduse inquiétante, quoi.
Ouais, c'était
perles partout là.
C'était surprenant parce que c'était en mouvement, donc on n'imagine pas trop ce genre d'idée, une corsetterie qui bouge, c'est pas trop. Et là, il y avait vraiment ce truc-là, un peu comme une méduse, et effectivement, voilà, c'était pas évident du tout à réaliser.
Victor Van Santo, qui est vraiment adoubé par la salle, quand tu demandes aux gens dans la salle pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous appréciez dans son travail et tout ça, c'est vraiment, on vient chercher les frissons qu'on avait chez Jean-Paul Gaultier. Ce qui est quand même pas mal comme compliment. Je pense que quand même le Jean-Paul Gaultier des débuts, c'était pas le Jean-Paul Gaultier des super productions qui était devenu très riche grâce au parfum et qui pouvait se permettre de faire un peu tous ses caprices, mais plus le Gaultier de la fin des années 70, début des années 80, avant la célébrité, avant l'argent, avant tout ça. Mais c'était très drôle et très amusant. Bon premier défilé pour nous de Fashion Week, ça m'a mis en forme. Tout le monde était, enfin c'était très sympathique et très rigolo. Et c'est un peu ce qu'on voudrait aussi, quoi, pas que des défilés où c'est triste d'être tellement c'est sérieux et tellement il y a d'enjeux d'argent. Voilà.
Ouais, et toujours avec des gestes forts, créatifs, comme ça.
Des enjeux d'argent, parce que je crois que c'est pas facile tous les 2 jours et tout ça. Donc l'apparition de son logo, le logo Van Santo, une espèce de W assez fluide, et qui apparaît donc à l'arrière de jeans, sur des cravates. Donc l'idée quand même de faire quelque chose qui se reconnaisse, qui soit reconnaissable, déclinable, et donc achetable, consommable. Je crois qu'il a changé à la dernière minute la couleur de ses jeans parce que l'acheteuse ou la vendeuse, je sais pas, mais quelqu'un au commercial lui dit c'est un peu couleur cendrier ton jean là, donc tu vas changer la couleur. Il s'en est rendu compte, il a changé la couleur. Il y avait une espèce de matière. Alors il a un deal avec LVMH qui lui refile, il y a une structure à l'intérieur de LVMH qui refile des matières de luxe à des prix vraiment très très avantageux à plein de jeunes marques et tout ça. Donc il profite de cette structure, je suis désolé, je connais pas le nom, mais c'est quelque chose qui aide pas mal quand on est dans une jeune création et tout ça, surtout à un moment où les matières viennent de tripler. Le prix des matières pour les créateurs viennent de tripler. Donc quand vous êtes une, même je crois que les grandes maisons ça craint un peu, mais bon les petites maisons ça craint beaucoup. Donc voilà, donc ça fait plaisir de voir une maison qui évolue, qui grandit et qui le fait dans la joie et un relatif bordel.
Et avec toujours une envie quand même hyper couture, même sur le calendrier prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des robes corsetées, donc surtout la dernière robe
incroyable
sur le line-up portée par la mannequin Meng, c'est une robe corsetée de la tête aux pieds littéralement, et c'est pas du tout facile de marcher avec ça, et elle a réussi, et c'était pas, je pense, c'était pas simple et parfait, mais C'est vraiment une robe compliquée à réaliser et on l'a filmée en fitting. Et là, de l'avoir terminée, oui, là c'était, on était proche de la couture, on n'était plus du tout dans du prêt-à-porter.
Robe réalisée justement par son amie...
Miss Lady Boo, la nouvelle pointure du corset.
À Paris, dont on a filmé le premier défilé il y a quelques mois et on va le diffuser aussi dans pas longtemps. Voilà, donc on est dans notre DS, on en profite, on va rentrer se coucher. Ou est-ce qu'on a encore des essayages? Peut-être qu'on va encore aller filmer des essayages. On se retrouve demain pour l'épisode 2 où on vous parlera de Dior, Dior et de toutes les autres choses qu'on va voir.
Ça commence très fort.
Ça commence très fort. Une Fashion Week avec des milliards d'enjeux. On va tout vous raconter au premier degré. C'était Au cœur de la mode, épisode 1, saison 2. J'espère que vous faites un bon sport, que vous avez bien épluché vos légumes. que vous êtes... je ne sais pas ce que vous avez fait en écoutant ça. Vous avez fait du vélo. Non, faites pas du vélo en écoutant ça, c'est dangereux. Au cœur de la mode, saison 2, c'est tous les jours pendant la Fashion Week parisienne à bord de la DS. Écoutez-le sur toutes vos plateformes de podcast préférées comme Spotify, Apple ou tout ce que vous voulez. Mettez plein de pouces, plein d'étoiles, dites que c'est super. Dites que c'est super. Si, et voilà, faites des bisous.
Merci d'avoir écouté.
Ciao!